l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Nicolas Blin, bonjour.
Bonjour.
Alors avec toi, Nicolas, on va parler de droit de la nature. Ce droit à la nature, c'est quoi ? Et j'ai envie de te poser la première question. C'est quoi la différence avec le droit de l'environnement, qui est une chose qui est bien ancrée depuis longtemps ? C'est quoi la différence entre droit de l'environnement et droit de la nature ?
Le droit de l'environnement, c'est un droit qui a émergé à échelle internationale et française, au niveau des années 70. Il s'est construit sur la base et la compréhension du fait que l'homme commençait à avoir un impact sur les écosystèmes. Le droit de l'environnement, c'est un droit qui vise à, j'allais dire, protéger et limiter les activités humaines et leur impact sur les éléments vivants, sur la biosphère. C'est donc un ensemble de règles qui est adossé à un système global, un système économique que l'on a lui-même bâti depuis plusieurs décennies. Ce système, il est régi par différentes lois, le système économique, comme des lois de productivité, des lois de transport, on va mondialiser les échanges, etc. Mais le système de droit environnemental est là simplement pour limiter les impacts humains de ce gros système de développement humain tel qu'on le connaît depuis plusieurs décennies.
Et faire en sorte que quand il y a un accident comme la Moco Cadiz, le droit de l'environnement permet de faire payer aux gens qui ont affrété ce navire des redevances, enfin des amendes aux gens qui en ont subi les conséquences par exemple.
Depuis effectivement notamment 2012 et l'affaire de l'Erika, la Cour de cassation a reconnu le préjudice écologique, c'est-à-dire le fait de réparer des dommages faits à la nature en son nom propre, et pas simplement du fait qu'il y ait des intérêts humains, économiques ou moraux qui ont été lésés du fait de ce dommage de la nature. Ce préjudice écologique a été reconnu ensuite, ultérieurement en 2016, dans le droit français par une loi. Or, ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs décennies, c'est que notre modèle de développement et les grandes lois dont je parlais, c'est des règles qui relèvent de ce que j'appelle moi une nomosphère, la sphère de l'homme. L'homme s'est progressivement détaché du monde vivant. On a perdu la notion et la conscience du fait qu'on appartenait à cet écosystème, notamment depuis Descartes et la philosophie des Lumières, où de plus en plus on s'est dit il faut maîtriser la nature et la dominer. Aujourd'hui, on a un regard anthropocentré, c'est-à-dire qu'on a un regard orienté uniquement sur la nature au service de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de ressources naturelles et on les considère comme des biens dont on peut user et disposer librement sans aller, j'allais dire, respecter les lois de la biosphère. Qu'est-ce que sont ces fameuses lois ? Ce sont des mécanismes dont on prend de plus en plus conscience à la faveur de bouquins et d'études. C'est notamment des mécanismes de coopération. On voit notamment à travers l'évolution que les espèces qui ont le mieux évolué, celles qui ont le plus survécu, j'allais dire, ce ne sont pas celles qui étaient les plus fortes ou qui sont rentrées le plus en compétition. Ce n'est pas forcément la loi du plus fort, mais au contraire, c'est des notions de coopération qui ont permis aux espèces d'évoluer. On voit aussi parmi les grands principes qui régissent les mécanismes de la biosphère que ces espèces travaillent davantage sur elles se nourrissent et elles utilisent tout ce qui est autour d'elles, du local, contrairement à ce que nous on fait avec la mondialisation. On voit également qu'elles utilisent à 90% ces espèces de la biosphère l'énergie solaire. Or aujourd'hui, nous utilisons encore beaucoup trop d'énergie fossile. Et nous, au fond, êtres humains, depuis maintenant quelques décennies, nous avons imposé cette fameuse homosphère, cette bulle avec nos règles, ce qui fait qu'aujourd'hui, à trop tirer sur la corde, on entraîne du changement climatique avec une perspective de plus de 4 degrés à horizon 2100, on entraîne une érosion sans précédent de la biodiversité et d'autres grands dommages. Les solutions que l'homme est en train de mettre en place aujourd'hui pour contrer et endiguer les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux, elles sont bien sûr utiles. Il ne faut pas les balayer d'un revers de manche, elles sont véritablement utiles. Mais on sent et on le comprend qu'elles sont limitées. Pourquoi elles sont limitées ? Parce qu'on essaie d'utiliser des mêmes mécanismes que ceux qui ont contribué au délabrement des écosystèmes.
Et qui à un moment peuvent se retourner d'ailleurs, si on garde cette logique-là, actuellement on va par exemple replanter, comme à New York, des arbres parce qu'on se rend compte que leur service pour épurer l'eau est bien supérieur, mais si on trouve une nouvelle technologie ou si on arrive à payer les gens moins cher pour le faire, peut-être que le modèle économique sera non plus en faveur des arbres, mais en faveur d'une activité humaine qui détruira les arbres.
Effectivement, et alors il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature. On se rend compte que pour répondre aux enjeux environnementaux et aux défis qu'ils posent, on peut au contraire davantage s'appuyer sur la nature pour coopérer avec elle plutôt que de partir sur des solutions qui soient, j'allais dire, de la géo-ingénierie pour essayer de modifier le climat en envoyant des particules dans l'atmosphère, ou bien lorsque les abeilles ont disparu dans un écosystème parce qu'on a trop bombardé de pesticides localement les champs, aux États-Unis actuellement il y a des projets de créer des robots abeilles qui iraient polliniser à la place. Donc au fond on se rend compte qu'il y a un risque de fuite en avant et de se dire finalement la technologie, l'être humain s'en est toujours sorti et on trouvera avec des recettes nouvelles mais finalement avec les mêmes fondamentaux des solutions. Et donc pour revenir à ta question de tout à l'heure, quelle est la différence entre le droit de l'environnement et les droits de la nature ? Le droit de l'environnement vise finalement à limiter les impacts de l'homme sur le reste du vivant, mais dans cette logique de l'homosphère, de continuer à avoir ce modèle de développement dominant, les droits de la nature visent au contraire, eux, à avoir une nouvelle approche des écosystèmes et à dire finalement que nos règles actuelles, elles doivent s'adapter à celles de la biosphère. Il y a des notions qui émergent comme tout ce qui est permaculture, c'est des choses qui commencent à prendre de plus en plus. Et bien de la même manière, il faut qu'on adapte nos lois aux mécanismes de la Terre de sorte à respecter ces processus de régénération naturelle. La transition entre ces mécanismes-là, entre le droit environnemental et les droits de la nature, elle se fait à travers une philosophie que l'on appelle la jurisprudence de la Terre. Depuis des siècles, on considère que la source du droit, c'est la raison humaine. C'est l'homme qui, de par sa seule raison, est capable de dire ce qui est bien ou mal, ce qui est vertueux ou pas, ce qui profite à l'ensemble de la communauté. La jurisprudence de la Terre, c'est une philosophie encore confidentielle en France, mais qui se développe à échelle internationale par le biais des Nations Unies, d'une initiative qu'on appelle Harmonie avec la Nature. Cette philosophie, qu'est-ce qu'elle est ? À quoi elle correspond ? L'idée de la jurisprudence de la Terre, c'est de dire que la source du droit, c'est l'univers. C'est-à-dire que les droits proviennent de là où la vie elle-même naît. La source de la vie et les sources des grandes règles du fonctionnement du processus vital viennent de l'univers, et donc il en est de même à échelle terrestre, ces fameuses grandes lois de la biosphère. Qu'est-ce que nous dit Thomas Berry, le concepteur qui a créé la jurisprudence de la Terre? Il nous dit que le vivant, l'univers, est une communion de sujets et non pas une collection d'objets. Ça veut dire que toute entité vivante sur la Terre est sujet de droit. Il a des droits à exister, à avoir un habitat et également à jouer, et ça c'est le droit fondamental, à jouer son rôle dans les processus évolutifs. C'est-à-dire que Thomas Berry nous dit que chaque entité du vivant, que ce soit un écosystème, une forêt ou un animal, a un rôle à jouer dans les processus du vivant et de la biosphère. Et ce rôle, il doit être vertueux. On l'a vu tout à l'heure, les grandes lois, les grands mécanismes de la biosphère, on voit qu'il y a de la réciprocité. Un arbre, on a des arbres à côté de nous, et bien les arbres, depuis des centaines de millions d'années, coopèrent avec des champignons qui sont dans leur sous-sol, et sans cette coopération, et bien les arbres ne pourraient pas vivre parce qu'ils échangent réciproquement des nutriments, des sels minéraux et des sucres, et c'est cette association qui permet aux arbres et aux champignons de se développer. Si on casse cette mécanique-là, cette coopération, les forêts pourraient être bien, bien, bien mal en point. Nous aussi, espèce humaine, nous avons un rôle à jouer, et pas simplement un rôle de ponction et d'utilisation des ressources, mais c'est de, à un moment donné, se dire, au vu des défis, qu'est-ce que l'espèce humaine et comment elle peut interagir avec ce vivant ?
Interagir positivement.
Interagir de façon vertueuse et de façon réciproque. Donc, sur cette base-là, sur cette logique de réciprocité, on se rend compte que tous les écosystèmes, les espèces en elles-mêmes, elles ont évolué au service d'un tout, au service de la communauté du vivant. Et c'est ça qui maintient l'équilibre. C'est ça que nous avons rompu. Et aujourd'hui, l'être humain, son enjeu, c'est de se dire, en tant qu'espèce, comment je peux maintenant devenir partenaire et non plus souverain du vivant. Je prends un exemple très concret. Les cellules d'un corps. Pensez aux cellules de votre propre corps. Chaque cellule a différentes fonctions et elle joue un rôle au service du bien-être de votre corps. Si une cellule tombe malade ou décide de ne plus agir, c'est tout le corps qui se dérègle et vous pouvez vous-même tomber malade, voire pire. Donc on se rend compte de plus en plus de cette interdépendance en fait, entre tous les membres d'un système organique. Et c'est ce que nous aujourd'hui, êtres humains, devons faire en réformant nos lois et en se demandant comment, espèce humaine, on peut avoir un rôle positif dans cette logique de réciprocité par rapport aux écosystèmes. Qu'est-ce que l'espèce humaine peut rendre en retour aux vivants?
Ok. Alors dans une deuxième partie d'émission, on va voir avec toi qu'en fait, c'est pas un rêve qui est dans ta tête, c'est quelque chose, c'est un mouvement mondial qui est en route là-dessus. Mais avant, on va écouter un peu de musique. T'as envie d'écouter quoi?
Là, tout de suite, j'aimerais écouter Ben Howard, la chanson « Promise ».
Bundles of flowers away through the hours of cold. Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time. Shelter as we go. Maybe, just maybe, I'll come
il se passe quoi? Il y a des consciences comme ça qui s'éveillent un peu partout, parce que souvent on le voit, on a l'impression d'être très évolué, mais il y a des choses qui viennent parfois plus vite ailleurs, souvent dans des pays plus jeunes.
Alors effectivement, en France, pays cartésien par excellence, le fait de se dire on va reconnaître des droits à la nature, à des écosystèmes, c'est une idée complètement folle. On a reconnu des droits en France à des individus, les droits du citoyen, les droits de l'homme. On reconnaît des droits depuis maintenant bien longtemps aussi à des entreprises. Mais pourtant, effectivement, dans le monde, ça bouge et ça bouge à différents niveaux. ça bouge notamment donc en Équateur. Depuis 2008, la constitution équatorienne reconnaît les droits de la nature, les droits de la terre-mère, la Pachamama, selon la vision autochtone, locale, de vivre, d'exister, de prospérer, de reproduire et maintenir ses cycles et la continuité de ses cycles, et de ne pas être pollué, d'être réparé en cas de pollution. Exactement. Donc c'est une série, voilà, du à peu près une dizaine de droits qui sont reconnus aux écosystèmes.
Et concrètement, qu'est-ce qui se passe du coup ?
Alors déjà, c'est le fait d'inscrire ça dans la Constitution, c'est un signal fort qui est envoyé à tous les citoyens et au reste du monde de dire aujourd'hui nous officialisons le fait que nous, citoyens de l'Équateur, nous avons un nouveau rapport au vivant. Ce rapport, il n'est pas nouveau parce que les populations autochtones locales, elles, depuis toujours, elles se conçoivent comme partie de la nature. En revanche, aux yeux du monde et aux yeux de citoyens à qui ça ne parlerait pas, c'est un message fort qui est envoyé. Ça, c'est une chose déjà fondamentale parce que c'est un basculement culturel. La deuxième chose, c'est évidemment une meilleure protection des écosystèmes. Il y a donc à peu près 25 procès qui ont eu lieu, donc des citoyens ou l'État également, ça peut être l'État, ça peut être tout individu qui s'empare des droits qui sont inscrits dans la Constitution. Eh bien, 25 procès qui ont eu lieu pour la reconnaissance ou pour la défense des droits de la nature plus précisément, et 80% de ces procès ont été positifs en faveur des droits de la nature. Et le troisième sujet, c'est que ces droits de la nature, c'est pas simplement un bâton, j'allais dire, c'est aussi une truelle pour aller construire un autre édifice, un nouvel édifice, et les droits de la nature en Équateur ont été depuis inscrits dans différentes lois, des lois rurales, des lois liées à l'eau, etc. Si on regarde au-delà de l'Équateur, en Nouvelle-Zélande, l'année dernière, en 2017, la rivière Wangani a été reconnue sujet de droit à la suite d'un accord qui a été passé en 2012 entre le gouvernement néo-zélandais et les tribus maoris. Cette loi de 2017 est venue entériner cet accord et on pourra y revenir tout à l'heure, il y a un système de gardiens qui va venir protéger les droits de cette rivière. Alors, ce sont les représentants des droits de la rivière. Ils vont agir en qualité de tuteur, exactement comme le fait un tuteur d'une personne reconnue incapable, une personne démente par exemple en France, eh bien le tuteur de cette personne va exercer ses droits et va faire respecter les droits de cette personne-là. Dans les textes, on les appelle la face de la rivière, la face humaine de la rivière. Eh bien ces gardiens vont pouvoir effectivement aller protéger en cas d'atteinte les droits de cette rivière. Il y a un deuxième organe qui a été créé par le biais de cette loi, c'est un organe de conseil, un peu un conseil de sages qui peut orienter les choix et l'action des gardiens. Et il y a un troisième conseil, et là c'est très intéressant, c'est un conseil stratégique. C'est un conseil qui est organisé et composé de représentants de la communauté autochtone, de représentants de l'État et de différentes parties prenantes également comme des associations ou des responsables de structures privées. L'idée, ce n'est pas de dire il faut arrêter toute activité humaine, parce que certaines activités sont déjà là, etc. Mais c'est de dire, on pourra continuer la pêche, pourquoi pas. On pourra continuer du tourisme fluvial, etc. Pourvu que ça respecte les droits de l'écosystème. Et si on voit qu'il y a un projet d'aménagement qui risque de porter atteinte de façon substantielle à la rivière, eh bien, ce projet-là sera, par exemple, écarté.
Donc, ça amène de quoi en plus qu'une réserve naturelle française ?
Reconnaître les droits à un écosystème, ça va nous permettre d'aller plus loin dans la transformation des consciences et ça va nous permettre aussi un mode de gouvernance, j'allais dire, plus important et plus intéressant, pluriel. Il existe un projet qui a été lancé en 2017 par l'Institut de recherche du développement de l'IRD de Nouméa qui envisage et qui a pour projet donc de créer un statut juridique de reconnaître la personnalité juridique de l'océan Pacifique. Et c'est un projet de recherche pour l'instant et qui rassemblerait différents États. L'idée, c'est d'arriver à une convention régionale qui demain pourrait être signée par des États comme la Nouvelle-Zélande, comme les îles Fidji. Le Premier ministre des îles Cook s'est déclaré très favorable à ce projet devant l'ONU.
Et donc, oui, mais là-dedans, sur le Pacifique, tu as aussi le Chili avec sa pêche industrielle, tu as aussi les États-Unis.
ils n'arriveront jamais à protéger l'ensemble. La Chine, je ne sais pas, elle doit avoir aussi, hein, ou le Japon en tout cas, des côtes avec l'océan Pacifique.
Ça va être effectivement tout l'enjeu de ces deux années, parce que je crois que le texte arriverait en 2020. Mais en tout cas, ce serait un travail sous-régional, donc il faudrait voir effectivement à quel niveau, si c'est l'ensemble du Pacifique, et pour l'instant on n'a pas encore trop de détails, ou bien si c'est, j'allais dire, une partie restreinte du Pacifique. Mais en tout cas, ce serait en quelque sorte une vraie avancée pour la protection des écosystèmes. Et ce que je voulais souligner effectivement, c'est que lorsqu'on a si demain on avait cet accord qui était conclu, ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a un système de gardiens, de la même manière qu'en Nouvelle-Zélande, qui soit associé à cette personnalité juridique que serait demain l'océan Pacifique. Et ces gardiens pourraient être le secrétariat de la COP, donc la conférence des parties. Il existe des COP pour le climat. On pourrait imaginer que quelques personnes au sein de ces États soient nommées comme les représentants des droits de l'océan Pacifique et qui viseraient à les préserver de la surpêche et de ce genre de choses. Donc on aurait finalement une gouvernance et une gestion collégiale d'un commun, ou de ce qu'on peut appeler un bien commun, au service justement du respect des droits de la nature et de la perpétuation de ces cycles.
Alors on aurait pu commencer par ça, mais là il nous faut finir. Je vais énumérer la liste des principaux droits de la Terre. C'est le droit à la vie et à l'existence, c'est le droit au respect, c'est le droit à la régénération et à la continuité de ses cycles, c'est le droit à son identité propre, c'est le droit à l'eau, à l'air pur et à la pleine santé, c'est le droit de ne pas être pollué, le droit de ne pas être génétiquement modifié ou transformé, et c'est le droit à réparation en cas de violation. Nicolas Blain, un mot de la fin pour cette émission sur le droit à la nature.
Dépassons ce qui nous paraît certain et évident, ce dans quoi on a toujours grandi, notre carcan idéologique. À l'époque, les droits de l'homme, lorsque certains parlaient de reconnaissance des droits de l'homme, lorsqu'on était dans des périodes où il y avait l'esclavage, ou lorsqu'on était 200 ans avant la Révolution française, ce concept de droits de l'homme paraissait complètement utopique, etc.
Et on n'est pas encore arrivé à le faire complètement arriver. Hein.
Nous n'y sommes pas encore totalement, et on voit qu'il y a des violations des droits de l'homme au quotidien. Mais le fait est qu'on a reconnu une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et une déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ce qui était hier impossible pour les droits humains, l'est devenu, et aujourd'hui c'est une évidence. C'était la même chose pour les droits des minorités noires, c'était la même chose pour les droits des femmes. Et au fond, il faut simplement faire preuve d'audace et de changer notre rapport au vivant pour arriver à faire en sorte que les droits de la nature essaiment à travers le monde. Voilà.
Je dirais qu'ils sont même liés, parce que sans droit à la nature, il est bien possible qu'un jour, face à la raréfaction des ressources, les droits de l'homme eux-mêmes soient largement mis à mal.
Exactement. On a vu tout à l'heure que les droits de l'homme et les droits de la nature sont complémentaires, mais il est évident que les droits de l'homme, et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de textes, les droits de l'homme dépendent des droits de la nature. Si vous ne permettez plus à un écosystème de se régénérer, si vous ne permettez plus à une espèce comme les abeilles de jouer leur rôle dans la grande chaîne du vivant, etc., eh bien, on aura demain concrètement beaucoup moins de fruits et légumes. Les abeilles contribuent à la pollinisation de 80% pardonnez-moi, des plantes à fleurs, de mémoire. Et eh bien, si on ne respecte plus ce rôle que jouent les abeilles et leur droit à participer à l'ensemble de la communauté du vivant, eh bien demain c'est beaucoup moins donc de fruits et légumes, et donc c'est simplement notre alimentation qui va être affectée, quoi.
Même si certains peut-être trouveront des solutions, et c'est là que je voulais dire aussi que les droits de l'homme pouvaient être largement mis à mal, c'est qu'une fois les abeilles disparues, on nous trouvera certainement des solutions, seulement ces solutions seront certainement brevetées et mettront notre alimentation, qui a un besoin élémentaire, nous mettrons en tant que sujet des gens qui nous permettront de manger. Alors que pour l'instant, le service que nous rendent les abeilles est gratuit. Donc il vaut mieux préserver les abeilles que d'avoir à faire reconstruire le service qu'elles nous rendent gratuitement.
Exactement. On le voit aujourd'hui dans certains coins de Chine, notamment là où les abeilles ont disparu. On se rend compte que donc il y a cette question du brevetage, mais il y a aussi la question justement du coût. Alors là, on rentre dans une logique quand même anthropocentrée, mais dans certains pays comme la Chine, eh bien, dans les régions où les abeilles ont disparu, on paye des gens pour polliniser les arbres à la main. Dans d'autres régions, et c'est le cas notamment aux États-Unis, actuellement il y a des projets de créer des robots abeilles qui viendraient jouer le rôle naturel que jouent les abeilles. Donc évidemment c'est une fuite en avant technologique en se disant on trouvera de toute façon toujours des solutions nous en tant qu'humains parce qu'on s'en est toujours sorti. Et c'est surtout, j'allais dire, une déconnexion de plus en plus lointaine et profonde de ce que la façon dont on doit considérer encore une fois notre rôle, parce que estimer qu'on s'en sortira toujours à travers la technologie, c'est aller encore un pas plus loin au-delà de la nature. Or, l'idée et l'enjeu, c'est de faire tout l'inverse, c'est précisément d'essayer de se reconsidérer en tant qu'espèce humaine parmi une communauté globale qui est la communauté du vivant, qui est faite d'écosystèmes, qui est faite d'espèces et qui agissent tous de façon interdépendante, de façon réciproquement vertueuse. Et c'est ça tout notre enjeu, l'enjeu principal.
Allez, je vais faire un dernier truc anthropocentré sur cette histoire des abeilles. Peut-être qu'on créera les robots ou qu'on paiera des gens pour aller polliniser les pommiers, mais on oubliera peut-être la petite plante qui pousse en bas du pommier, qui du coup ne se développera pas et disparaîtra. Et c'est peut-être dans cette petite plante qu'il y aura un vaccin du futur. La biodiversité mérite d'être respectée pour elle-même, mais peut-être pour nous-mêmes aussi. Je suis désolé de revenir à l'anthropocentrisme que tu n'aimes pas, mais j'ai l'impression quand même pour que les gens comprennent l'intérêt du vivant, il y a quand même ça, et que souvent ces solutions technologiques qu'on va nous donner, par exemple, ne recouvrent pas toute la complexité de ce que font actuellement les écosystèmes. On vient à peine de découvrir l'importance des champignons pour les arbres. Voilà, il y a plein de choses qui nous restent encore à découvrir de ce merveilleux mécanisme qu'est la Terre, qu'est la biosphère, l'ensemble de la biosphère avec tout ce qu'elle a jusqu'au niveau le plus microscopique, et qu'on a tout intérêt à la préserver pleine et entière.
Oui, effectivement, je pense que pour permettre à des gens de comprendre l'intérêt des écosystèmes dans notre quotidien, effectivement, c'est pas inintéressant de temps en temps, je pense, de dire que la pollinisation des abeilles, ça vaut tant. Alors on met un chiffre sur la nature et l'idée, c'est de ne pas arriver à une marchandisation des services écosystémiques ou ce genre de choses où finalement tout va avoir un prix et la nature va devenir un marché. Mais peut-être que pour une certaine frange de la population, se dire en fait ça a une valeur utilitariste, mais évidemment le but du jeu, c'est à terme de pouvoir passer de cette logique utilitariste qui est celle dans laquelle on baigne depuis des décennies, vers une logique de la valeur intrinsèque, de se dire chaque écosystème a son rôle à jouer au titre de sa seule existence, que ça soit les abeilles, que ça soit des fleuves ou des rivières, et ils ont droit de jouer ce rôle au service du tout, à nous. Être humain, de voir ça de façon positive, de façon constructive, en se disant qu'on a une super opportunité pour reconstruire un nouveau rapport. C'est un changement philosophique énorme, hein. C'est un peu une révolution copernicienne, et c'est tout l'objet de ce projet-là, de ces enjeux-là. Mais je crois que ça répond aussi à des notions de bien-être. On le voit, on parle des forêts, on parlait des forêts tout à l'heure, etc., et des arbres. On est sous des arbres en ce moment. On se rend compte que les arbres, notamment, procurent du bien-être. Hein, quand vous vous baladez en forêt, vous développez davantage de défense immunitaire quand vous passez une journée en forêt que si vous vous baladez en ville. On se rend compte que les arbres également, et notamment les arbres urbains, peuvent limiter le fait de vivre à proximité d'arbres urbains, peuvent limiter, enfin augmenter de 7 années votre espérance de vie. Parce que des études scientifiques ont été menées, et le fait de vivre à proximité d'arbres, vous êtes moins exposé à la pollution aux particules fines par exemple, parce que les arbres vont stocker ces particules fines. Vous avez un sentiment de bien-être parce que le couvert végétal vous donne un sentiment de quiétude, vous êtes plus enclin à faire du sport, etc. Donc on se rend compte aussi du pouvoir et de la connexion qui existe entre l'homme et la nature, et ces notions de bain de forêt, de sylvothérapie peuvent être des portes d'entrée pour, j'allais dire, reconsidérer notre rapport à ces entités-là, au rôle que l'on joue avec elles. Et demain, aller se rendre compte qu'en fait, ce rapport-là, il se passe aussi sous terre avec les fameux champignons dont on parlait tout à l'heure, les échanges entre l'arbre, et il se passe à tous les niveaux de la vie, au niveau des abeilles vis-à-vis d'autres entités, du rôle des océans par rapport aux poissons, et que tout est lié, quoi.
Nous sommes un grand tout. Ça, c'est le mot de la fin. Ça te va ?
C'est super.
Merci Nicolas Blain. Peut-être pour que les gens se renseignent, tout ça, qu'est-ce que tu proposes comme lecture ou site internet ou...
Bah, s'ils veulent en savoir plus sur les droits de la nature, tout simplement d'aller sur Google et de taper « droits de la nature » ou le site droitsdelanature.com. Ils peuvent, à partir de ce site-là, découvrir pas mal de ressources d'organisations qui œuvrent à ce niveau-là et des liens vers d'autres écosystèmes qui parlent des droits de la nature de façon plus large.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.